j'ai pensé que ce serait bien quand même de, au lieu de vous envoyer tout de suite dans vos chambres, de faire une introduction. Alors nous allons commencer avec ce sujet, puisque le thème de notre retraite, c'est de connaître ce que la Bible enseigne au sujet de la résurrection. Alors, nous allons prendre ce que dit la Bible, les Écritures, ce que disent les Écritures. Et notre premier travail, ce matin, consistera à nous demander si dans l'Ancien Testament, appelé les Écritures, parce que c'est cela qu'il faut bien comprendre, au temps de Jésus, l'Ancien Testament, on l'appelait les Écritures. Et Jésus, chaque fois qu'il parlait des Écritures, c'était de quelle partie de la Bible que nous avons, nous? C'était l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament n'était pas encore écrit, comprenez-vous? Alors, les Écritures, littéralement, c'était l'Ancien Testament. Bien sûr que le Nouveau Testament ayant été ajouté, fait partie des Écritures. Mais littéralement, les Écritures, c'était l'Ancien Testament. Et Jésus lui-même disait, vous sondez les Écritures, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Donc, nous faisons bien de sonder l'Ancien Testament, puisque dans l'Ancien Testament, nous allons découvrir qui Jésus. C'est la personne du Christ qui remplit l'Ancien Testament. Et c'est Jésus ressuscité et qui lui-même a ouvert les Écritures, donc l'Ancien Testament, à ses disciples afin qu'ils comprennent tout ce qui avait été annoncé à son sujet et qu'ils avaient oublié, car au temps où le Christ est né, le peuple d'Israël attendait bien un Messie, un libérateur. Mais ils attendaient surtout un libérateur fort, politique, et qui allait, pensaient-ils, les délivrer de quel joug? Du joug des Romains. Hein? Et voilà que Jésus n'a pas été cela. C'est pourquoi j'espère que vous avez bien retenu ce que j'ai essayé de souligner ce matin, quand Jésus ne permet pas qu'on parle de lui. N'est-ce pas? C'est pas parce qu'on aurait honte, mais il faut pas se tromper au sujet de ce qu'on va dire de lui. Quand je vois que dans les réunions d'évangélisation, on vous annonce Jésus-Christ, votre dernière chance, hein, je n'aime pas ça. Parce que Jésus-Christ n'est pas une chance. Pas du tout. Et quand on accepte Jésus-Christ, il faut savoir que l'on doit renoncer à quoi? À soi-même. Et c'est la dernière chose, justement, qu'on comprend souvent. Parce que tant qu'on n'a pas renoncé à soi-même, on est malheureux. Ce qui nous rend malheureux, c'est nous. Il ne faut pas chercher ailleurs. Hein. Mais une fois qu'on a pu comprendre que le Seigneur nous libère de nous-mêmes pour se mettre à notre place, et que c'est lui qui devient notre centre, eh bien, on commence de connaître des délivrances merveilleuses. Et on a vraiment tout pleinement en lui, ce que nous allons remarquer en particulier dans les psaumes. Si vous savez, et si vous voulez savoir ce que vous avez en Christ, lisez les psaumes. Quand vous avez besoin d'un refuge, qui est votre refuge dans les psaumes? C'est l'Éternel, n'est-ce pas? Il est toujours ce dont nous avons besoin. Vous avez besoin d'être élevé sur un rocher, il est le rocher. Vous ne pouvez pas y parvenir vous-même, il vous mettra sur le rocher qui est trop haut pour vous. Laissez-vous faire par le Seigneur. Il est tout ce dont vous avez besoin. Vous avez besoin de vous réfugier dans une tour, il est votre tour. Vous avez tout cela dans l'Ancien Testament. Mais alors, il faut en être imprégné, et le Saint-Esprit nous rappelle ces choses. Alors, ce matin, donc, nous allons essayer de répondre à cette question. Trouvez-vous dans l'Ancien Testament des allusions à une possible résurrection. Parce que les vérités de la résurrection ont été développées surtout par Jésus ressuscité et par les apôtres qu'il a lui-même enseignés. Alors, cet après-midi, nous allons voir ce que nous trouvons au sujet de la résurrection dans les évangiles et dans les actes, et qui sont les actes au fond des apôtres. Et puis, ce soir, nous allons découvrir ce que nous trouvons de la résurrection dans les épîtres, pour finir demain dans l'Apocalypse. Vous voyez, alors nous aurons couvert ce que nous pouvons trouver de la résurrection dans les Écritures, Ancien et Nouveau Testament. Mais souvenez-vous toujours que c'est le Nouveau Testament qui va jeter de la lumière sur les vérités de l'Ancien Testament. Parce qu'il n'y a pas eu toute la clarté au sujet de la résurrection dans l'Ancien Testament. C'est une révélation progressive qui a été donnée. Et alors, sans le Nouveau Testament, il y a beaucoup de choses que nous ne pouvons pas comprendre. Et le Nouveau Testament, c'est, a comme autorité les paroles de Jésus et les paroles de ses apôtres, qui n'ont pas parlé d'eux-mêmes, mais qui ont parlé, inspiré par le Seigneur. À un tel point que l'apôtre Paul pouvait dire, toute l'écriture, donc l'ensemble des écritures, est inspirée de Dieu, est utile pour nous enseigner, pour nous convaincre, pour nous corriger aussi, afin que l'homme de Dieu soit parfaitement accompli pour toute bonne œuvre, soit propre à toute bonne œuvre. Alors, nous allons nous laisser imprégner par les Écritures. Et puis, toujours, ce que nous avons souligné hier soir, que c'est Jésus qui est la résurrection. Et si nous voulons savoir quelque chose de sûr au sujet de ce que peut être un ressuscité ou une résurrection, c'est lui que nous allons contempler. Alors, quelqu'un m'a fait la remarque que j'avais pas mis les références. Pourquoi? Parce que je pense que vous êtes des grandes personnes. Et que si vous avez toutes les références, vous allez lire juste votre référence, mais vous n'allez pas lire la Bible. Et c'est comme une préparation à la prochaine conférence. Comment lire la Bible d'une manière savoureuse, hein, que ça soit intéressant. Parce que sans ça... Voyez-vous, l'autre jour, je racontais cela au début d'une prédication, je devais prêcher mercredi, et puis c'est toujours pour moi, qu'est-ce que tu veux leur dire, Seigneur? Tu connais les gens qui seront là, moi je ne les connais pas, je ne sais pas quelles sont leurs circonstances, mais alors qu'est-ce que tu as à leur dire? Et j'avais demandé cela le soir avant au Seigneur, avant de m'endormir. Je me suis endormi, et puis le matin, je crois que je vous l'ai dit déjà hier, je me répète, ça fait rien, eh bien, le Seigneur faisait résonner dans mon cœur une parole. Et quelle était cette parole? Nous avons tout pleinement en Christ. J'allais avoir une terrible épreuve, 2 heures plus tard, mais avant, le Seigneur me donnait cette parole, nous avons tout pleinement en Christ. Et ça résonnait tellement fort en mon cœur, que je me suis dit, bien, c'est ce message que j'apporterai ce soir. Et le Seigneur m'a montré, il faut que je trouve ce verset alors, nous avons tout pleinement en Christ, c'est où? Comprenez-vous? Non, on n'a pas besoin d'une concordance quand on lit la Bible régulièrement. Hein. On sait tout de suite, c'est dans l'épître aux Colossiens. Hein. Alors, on replace le verset dans son contexte. Nous avons tout pleinement en Christ. Mais pourquoi est-ce que nous avons tout pleinement en Christ? Parce que le verset précédent, et c'est toujours ce qu'il faut voir, il ne faut jamais sortir un verset de son contexte. Il faut lire le verset, le comprendre à la lumière de ce qu'il y a avant et de ce qu'il y a après. Et comme ça, nous ne foirons pas. Nous sommes sûrs de sa parole. Et qu'est-ce qu'il est dit au sujet de nous avons tout pleinement en Christ? En lui, Dieu a fait habiter toute la plénitude de la divinité. Vous ne trouvez pas que c'est fantastique? Alors, en lui, donc dans la personne de Jésus, vous trouvez toute la plénitude de la divinité. Et qu'est-ce que c'est la plénitude de la divinité? C'est Dieu connu comme un Père, on en a parlé ici, dans les anciennes conférences, hein. C'est Dieu connu comme le Fils, et c'est Dieu connu comme le Saint-Esprit. C'est ça, la plénitude de la divinité se trouvait en Christ. Il n'y avait pas Christ et puis le Saint-Esprit à côté. Il était en lui. Il n'y avait pas Christ puis le Père au fond du ciel. Quand on voyait le Christ, qu'est-ce qu'on voyait? Le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. C'est un Dieu unique, mais manifesté en trois personnes, Père, Fils et Saint-Esprit. Nous n'avons pas à expliquer cela, nous avons à adorer et à nous réjouir que quand je m'adresse à Dieu, je m'adresse au Père de Jésus-Christ et qui veut me traiter comme il a traité son Fils. Je l'ai dit souvent et je le répète, ça me bouleverse. Vous pouvez croire que Dieu vous aime autant qu'il aimait son Fils. Est-ce que c'est trop dire? Tu les as aimés, disait Jésus, à ton Père, comme tu m'avais aimé, mais on ne le croit pas. Parce qu'on se regarde toujours, puis on se dit, je suis trop mécréant pour qu'il m'aime ainsi. Eh bien non, c'est ça la grâce, c'est ça l'amour de Dieu. Dieu vous aime comme il aimait Jésus. C'est quand même fantastique, hein? Puis si vous vous sentez comme mort, comme on le disait hier soir, hein, comme mort spirituellement, laissez sa main se poser sur vous. Je tombais à ses pieds comme mort, mais il posa sa main sur moi. C'est le geste dont je parlais pour vous accueillir. Hein. Laissez le Seigneur mettre sa main sur vous, et la puissance qui se trouve dans sa main, puissance de force, vous pénétrera. Mais vous savez, tous les jours, on n'est pas sauvé il y a X années. Oui, j'ai été sauvé à l'âge de 14 ans, j'ai su que j'étais sauvé et que je ne devais plus douter de ce salut. Et les années ont passé, hein? Les années ont passé, mais il a été fidèle. Nous sommes encore là, mais non pas pour nous glorifier nous-mêmes, nous étions pécheurs. Nous avons eu la conviction de péché, que nous ne pouvions pas entrer au ciel, même si nous n'avions pas commis des grandes fautes. Mais pourtant, dans nos pensées, comme dans nos paroles, comme dans nos actions, comme tous les péchés d'omission, on sait faire le bien puis on ne le fait pas. Eh bien tout cela, on a été convaincu un jour de péché, puis on a accepté Jésus. Donc, si tu es un pécheur, tu trouves en Jésus un sauveur. C'est ça qui est fantastique. Si tu es un solitaire, une fois que tu as trouvé en Jésus ton sauveur, tu ne t'appartiens plus, tu appartiens à celui qui t'a racheté. Alors, tu n'es plus seul, il devient ton Seigneur. C'est formidable d'avoir un Seigneur, hein, d'avoir un Maître qui va lui-même nous enseigner à son école, non pas à l'école des hommes, mais à son école, par sa parole, je suis enseigné. Et la foi vient de ce qu'on entend par la parole de Dieu. Chaque fois que je trouve un verset, je cherche à m'en emparer et ça devient une puissance de vie en moi. On est transformé par cette parole dès qu'on la croit. Si tu crois, disait Jésus, à qui? À Marthe. Tu verras quoi? La gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Dans le cercueil, dans le tombeau, où était Lazare? Comment? Eh bien oui, il est sorti. À la parole du Seigneur, le mort sort. C'est fantastique. Eh bien, c'est cela que vous devez croire. La Bible est un livre vivant. Et nous aimons la Bible. Ce n'est pas un devoir pour nous lire la Bible. C'est une nécessité. Car quand on ne la lit plus, on voit qu'on oublie très vite les choses. Et puis alors, on n'est plus qu'avec soi-même. Tandis que la Bible nous sort de nous-mêmes et nous place dans le Christ. Et c'est fantastique. Quand notre pensée est changée, alors, tout est différent. Maintenant, nous revenons à nos textes. Dans la loi, on appelait la loi quelle partie de l'Ancien Testament au temps de Jésus? Les saints livres de Moïse. C'était la loi. Alors, il y en a le premier livre de Moïse, c'est la Genèse. Alors, nous avons dit hier soir, est-ce qu'on trouve déjà peut-être l'idée de la résurrection dans la Genèse? Alors, si je vous mets simplement un texte, vous allez peut-être le lire, mais je vais vous donner les références. C'est pas que je ne vais pas vous les donner, mais chapitre 22. On ne peut pas prendre toutes les références. Chapitre 22, nous avons là l'histoire du sacrifice d'Isaac. Hein. Abraham, qui a l'âge de 100 ans, après 25 ans d'attente, a un fils. Voilà qu'il reçoit l'ordre de sacrifier son fils. Est-ce qu'il va obéir? C'est tout à fait bouleversant pour lui. Dieu l'appelle. J'ai dit souvent, vous voudriez aussi que Dieu vous appelle, vous parle. Hein? Abraham, Abraham, et à la place d'Abraham, vous mettez votre nom. Oh, comme je voudrais que Dieu me parle comme il a parlé à Abraham. Oui, mais qu'est-ce qu'il lui a demandé? Vous dites qu'il vous demande autant qu'il a demandé à Abraham? Pour Abraham, c'était tout son fils. À l'âge où il était, c'était tout. Puis maintenant, il lui demande de sacrifier. Mais il obéit, parce que c'est ça, suivre Jésus, c'est lui obéir. Hein. Verset 3, Abraham se leva de bon matin, il n'a pas tardé, il sella son âne, verset 3, et prit avec lui ses deux jeunes serviteurs et son fils Isaac. Il fondit le bois pour l'Holocauste, donc il a tout préparé, et partit pour se rendre à l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Ça a duré combien cette marche? 3 jours. Le troisième jour, Abraham leva les yeux et il vit le lieu de loin, le lieu où il devait sacrifier son fils. Alors il dit à ses jeunes serviteurs, « Vous, restez ici avec l'âne, le jeune homme et moi, nous irons là-haut pour adorer, puis nous reviendrons. » Nous reviendrons, hein. C'est quand même fantastique. Alors on se demandait, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu puisses dire ça, nous reviendrons? Eh bien, c'est dans le Nouveau Testament que vous trouvez la réponse. Dans l'Épître aux Hébreux. Vous allez dans l'Épître aux Hébreux, et là, vous trouvez une réponse. Verset 17, chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux. C'est par la foi qu'Abraham, mis à l'épreuve, a offert Isaac. C'est son fils unique qu'il offrait, lui qui avait reçu les promesses, hein, là il faudrait lire les chapitres précédents de la Genèse, et à qui il avait été dit, c'est par Isaac que tu auras une descendance qui porte ton nom. Mais s'il le sacrifie, est-ce qu'il aura cette descendance? Apparemment non, mais c'est ça l'épreuve, hein. Il comptait, alors c'est là la réponse, que Dieu est puissant. Donc vous voyez, sur qui comptait-il pour pouvoir dire une parole, nous reviendrons? Il comptait qu'il y aurait une délivrance. Dans ces 3 jours de marche, au lieu de douter, de se lamenter, de pleurer, eh bien, il a cru que Dieu était puissant, même pour faire ressusciter d'entre les morts. Donc, il y a une allusion dans ce chapitre 22 à la résurrection. Tout n'est pas fini par la mort. Quand on est avec Dieu, Dieu est capable de ressusciter un mort. C'est pourquoi son fils lui fut rendu. Il y a là un symbole. Vous comprenez? Donc, vous devez trouver aussi des symboles dans l'Ancien Testament, mais ces symboles ne restent pas symboliques, ce sont des faits. Abraham a été éprouvé. Et quand il est arrivé sur la montagne, eh bien, il n'a pas vu qu'il y avait là un agneau qui était accroché dans un buisson. Hein. Ce qu'il a fait, c'est dresser le bois avec son fils, puis ensuite, on a mis Isaac sur le bois. Il a pris le couteau, et c'est au moment où il allait plonger le couteau pour accomplir le sacrifice, que le bras de Dieu s'est manifesté. Abraham. Il l'avait appelé le matin, 3 jours après, Abraham, épargne ton fils. C'est beau, là, la parole. Alors, vous connaissez cette histoire, nous passons. Mais c'est pour vous montrer que déjà dans la Genèse, nous pouvons trouver une allusion à la résurrection. Surtout qu'Abraham, il est dit de lui qu'il a été le père des croyants, c'est-à-dire le père de ceux qui ont la foi. Il est l'exemple d'un homme qui a cru Dieu. Quand Dieu lui dit « Sors de ton pays », il était en Irak, hein, où est Saddam Hussein encore. Il est parti de l'Irak parce que Dieu lui a dit « Sors de ton pays et de ta parenté pour aller vers le pays que je te montrerai ». Il n'a pas demandé des explications, il est parti. Et puis, le Seigneur l'a conduit. Mais, ce n'est pas parce qu'Abraham a obéi qu'il ne serait pas éprouvé. Et ce n'est pas parce que vous êtes désobéissant nécessairement que vous êtes éprouvé. Dieu nous façonne, Dieu nous forme. Il veut que nous soyons rendus semblables à son Fils, à Jésus. Et Jésus a été, comme homme, formé. Alors, j'ai pris donc la loi, c'est l'Exode. Mais maintenant, dans l'Exode, après la Genèse, qu'est-ce que vous avez? Est-ce que quelqu'un voit quelque chose? Est-ce que Moïse, lui-même, a eu une révélation au sujet de la résurrection? De nouveau, vous allez chercher dans le chapitre 3 de l'Exode, quand Dieu appelle Moïse, qui pouvait être découragé, 80 ans qu'il a, et quand on lit la prière qu'il a faite dans le psaume 90, hein, il dit qu'à 80 ans, quand on y arrive, et j'y arrive, hein, c'est encore peine et vanité. Dans les longues années, hein, que de peine et que de vanité. Mais, ce dont on peut parler aussi, c'est de la fidélité de Dieu. Et à 80 ans, est-ce que Moïse pensait qu'il allait vivre encore longtemps? Il avait dit, le nombre de nos années, c'est 70. Hein? Et puis, si à cause de la grande vigueur, on arrive à 80, ben, c'est déjà beau, mais c'est peine et vanité. Puis il a vécu jusqu'à quel âge? 120. Il est arrivé à 120 ans. Il y avait encore 40 ans pour lui. Et ce sont dans ces 40 ans qu'il a le plus travaillé. Dans les 40 dernières années de sa vie. C'est fantastique. C'est notre Dieu. Et vous devez croire au Dieu de Moïse. Hein? Alors, lisons ce que Jésus lui-même a dit. Parce qu'on veut savoir ce que Jésus a dit. Eh bien, dans le chapitre 20, il y avait des objecteurs, vous allez le voir en lisant l'Évangile. Dans le chapitre 20 de Luc, il y a les Sadducéens qui viennent poser une question à Jésus pour le couvrir de ridicule. Verset 27 du chapitre 20 de Luc. Quelques-uns des Sadducéens. Chapitre 20 de Luc, verset 27. Quelques-uns des Sadducéens, c'était une des sectes opposées aux pharisiens. Les pharisiens croyaient à la résurrection, mais les Sadducéens, du temps de Jésus, n'y croyaient pas. Qui soutiennent qu'il n'y a pas de résurrection. Vous voyez bien, hein? Il y en a qui nient la résurrection. Ils s'approchèrent de Jésus et lui posèrent cette question. Maître, hein, ils sont polis. Quelle bande d'hypocrites. Maître, voici ce que Moïse nous a prescrit. Si le frère de quelqu'un meurt et qu'il y ait une femme et pas d'enfant, son frère épousera la femme et suscitera une descendance à son frère. C'est vrai. Or, il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans enfant. Le second et le troisième épousèrent la veuve et il en fut ainsi même des 7 qui moururent sans laisser d'enfant. Alors, leur question. Après eux, la femme aussi mourut, hein, parce qu'on doit tous mourir, en dit-il. À la résurrection, puisque Jésus croyait, duquel d'entre elles, d'entre eux, sera-t-elle donc la femme? Car les sept l'ont eu pour femme. Et qu'est-ce que Jésus leur répond? Est-ce qu'il est coincé? Est-ce qu'il bafouille? Hein? Comme nous l'aurions fait, nous. Les enfants de ce siècle, donc les enfants de ce monde, qui ne connaissent pas la pensée de Dieu, ils prennent des femmes et des maris, mais ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir, c'est-à-dire au temps où Jésus règnera, parce qu'un jour le Seigneur règnera. Ce ne sera plus ces politiques d'aujourd'hui, hein. Ce sera le Seigneur lui-même qui règnera. Parce que vous voyez, tout le monde est dégoûté des politiques, eh bien, un jour, ce sera quelqu'un d'autre qui règnera sur ce monde. Ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir et à la résurrection d'entre les morts, de nouveau, vous avez l'expression d'entre les morts, ils ne prendront ni femme ni mari. Alors, à quoi ça sert d'aller au ciel? Parce que je pensais que là, au moins, j'aurais la paix et le bonheur conjugal, si je n'ai pas eu sur la terre. Et on a dit à ceux qui ont assassiné le premier ministre de... Hein? Pas Pérez, oui, il n'est pas assassiné. Hein? Rabin, n'est-ce pas? On lui aurait dit qu'il pourrait avoir 70 femmes si tu es Rabin. Quand il arriverait au paradis, il aurait 70 femmes. Qu'est-ce qu'il ferait? Alors, vous voyez la réponse du Seigneur. Ceux qui sont trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir à la résurrection d'entre les morts ne prendront ni femme ni mari. Ils ne pourront non plus mourir. Est-ce qu'on meurt deux fois? Non. Vous voyez ce que Jésus dit. Ils ne pourront non plus mourir parce qu'ils seront semblables à qui? Aux anges. Ça ne vous intéresse pas? Ils seront semblables aux anges. Et qu'ils seront fils de Dieu étant fils de qui? De la résurrection. Et c'est ça que nous devons comprendre. Qu'est-ce que c'est qu'être fils de la résurrection? C'est être comme les anges de Dieu. Fils de la résurrection. Que les morts ressuscitent, c'est ce que Moïse a signalé. Vous voyez que ce n'est pas mes idées. Déjà Moïse avait compris cela à propos du buisson quand il appelle le Seigneur Dieu, le Dieu de qui? D'Abraham. Le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Or, Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants, car pour lui, tous sont vivants. C'est fantastique. Quelques-uns des scribes répondirent, « Maître, tu as bien parlé. » Et ils n'osaient plus l'interroger sur cette question. Vous errez, ne connaissant ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Donc, Moïse, dans l'Exode, avait la connaissance de la résurrection, puisque il parle du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui sont morts, au temps de Moïse, ils étaient morts, hein, mais il en parle comme s'ils étaient vivants. Donc on les retrouvera. Alors, je passe, après la Genèse, on a vu, donc, qu'on peut trouver dans l'Exode. Maintenant, je vous donnerai un exemple encore dans les nombres. Nombre, vous ouvrez votre Bible au chapitre 17, puisqu'il est dit qu'il faut comprendre les symboles. Chapitre 17 des Nombres. Il y a eu une révolte contre Moïse et contre Aaron par un cousin de Moïse qui s'appelait Coré. Et quand cette révolte est détruite, le Seigneur parle à Moïse. Verset 16 du chapitre 17 des Nombres. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux Israélites et fais-toi donner par eux un bâton ou une verge selon leur famille, soit 12 bâtons de la part de leur prince et de leur famille. Tu écriras le nom de chacun sur son bâton, ou sur sa verge. tu écriras le nom d'Aaron sur le bâton de Lévi, car il y aura un bâton pour chaque chef de famille. Tu les déposeras dans la tente de la rencontre devant le témoignage, où je me rencontre avec vous. L'homme que je choisirai sera celui dont le bâton bourgeonnera, et je ferai cesser devant moi les murmures que profèrent contre vous les Israélites, parce qu'ils étaient toujours dans l'incrédulité. Moïse parla aux Israélites, et tous les princes lui donnèrent un bâton, chaque prince un bâton selon leur famille, soit 12 bâtons. Le bâton d'Aaron était au milieu de leurs bâtons. Et ces bâtons, c'était des bâtons de quoi? D'amandier. On a ça dans Jérémie. Mais c'était des bâtons desséchés. Hein. On s'appuyait sur ce bâton, mais c'était un bâton qui ne portait pas d'amande. Verset 22. Moïse déposa les bâtons devant l'Éternel dans la tente du témoignage. Le lendemain, lorsque Moïse entra dans la tente du témoignage, voici que le bâton d'Aaron pour la famille de Lévi avait bourgeonné. Un bâton sec qui bourgeonne. C'était le message que j'ai donné pour le début de cette année. Je veille, dit le Seigneur, sur ma parole pour l'exécuter. Que vois-tu, Jérémie? Il dit, je vois un bâton d'amandier. Tu as bien vu, Jérémie, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Si vous croyez cette parole, elle s'exécutera, c'est Dieu qui vous le dit. Donc, le lendemain, lorsque Moïse entre à verset 23 dans la tente du témoignage, voici le bâton d'Aaron pour la famille de Lévi avait bourgeonné. Il avait fait éclore des bourgeons, produit des fleurs et même mûri des amandes. C'est une véritable résurrection. Comprenez-vous? Symboliquement, c'est une résurrection. Dieu peut, d'un bâton sec, faire produire des bourgeons, des fleurs et mûrir des amandes. Moïse retira de devant l'Éternel tous les bâtons et les porta et tous les Israélites, à tous les Israélites. Et ils les virent et reprirent chacun son bâton. Les autres bâtons n'avaient pas fleuri. C'est ainsi que Dieu montre qu'il a toute puissance pour faire pour l'un, pour l'autre, ce qu'il veut. Et donc, là, il y a une image certaine de la résurrection. Maintenant, je passe de la loi, puisqu'il nous faut avancer, au psaume. On divisait donc l'Ancien Testament en la loi, c'était les saints livres de Moïse, les psaumes, et puis les prophètes. Alors, dans les psaumes, est-ce que nous trouvons des mentions ou des allusions à une résurrection? Hein? Oui, mais... C'est la seconde...
De
Scofield. Alors, allons plus loin, maintenant, mais avant les psaumes, je dirais quelques mots aussi sur le livre de Job, qui se trouve juste avant les psaumes. Est-ce qu'il y a, dans le livre de Job, Job qui vivait au temps des patriarches, comme vous le savez, eh bien, est-ce qu'il y a une idée chez cet arabe, parce que Job était un arabe, au sujet de la résurrection, cet homme qui a été tant éprouvé. Chapitre 19 de Job, verset 23. Oh, je voudrais que mes paroles fussent écrites, qu'elles fussent écrites dans un livre. Je voudrais qu'avec un burin de fer et avec du plomb, elles fussent pour toujours gravées dans le roc. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, c'est sa mort, hein, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu, je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non un autre, mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Ça, c'est certainement une allusion à la résurrection. Il croit que tout ne sera pas fini pour lui dans son épreuve. Alors, voilà, sur Job, et il y aurait d'autres versets aussi dans Job. Mais maintenant, dans les psaumes, prenez en particulier le psaume 16. Qu'est-ce que vous lisez dans le psaume 16? Verset 6 ou 7. Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exhorte. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. C'est beau ça, hein? Nous avons tout pleinement en lui. Alors, ayez constamment l'Éternel sous les yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Tu me feras connaître le sentier de la vie, il y a d'abondantes joies devant ta face, les délices éternels à ta droite. Alors, pour être sûr que nous ne nous trompons pas, allons voir ce que dit Pierre le jour de la Pentecôte, quand il témoigne au chapitre 2 des Actes de la résurrection. Au verset 22, homme israélite, chapitre 2, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par des miracles et des prodiges et des signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, cet homme livré par le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié. Ça, c'était l'histoire du Vendredi Saint. Vous l'avez fait mourir par la main des impies, Dieu l'a ressuscité. Elle a délivré des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Car David. Alors, on a vu Moïse, on a vu d'abord Abraham, on voit Moïse qui a une révélation là-dessus. Mais maintenant, il est question de David. Car David, c'est l'auteur des psaumes et du psaume 16. David dit de lui, je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie, et ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance. Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître le sentier de la vie, tu me rempliras de joie par ta présence. Homme frère, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David, qu'il est mort, qu'il a été enseveli, que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous, comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévu. Donc, quand vous lisez le psaume 16, C'est de la résurrection du Christ qu'il est question. C'est de la résurrection du Christ qui est prévue et annoncée, disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts, et Jésus n'y est pas resté, et que sa chair ne verrait pas la corruption. Alors, vous voyez le lien qu'il y a toujours entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Mais c'est à la lumière du Nouveau Testament que vous lisez l'Ancien. Alors là, vous avez des certitudes, ce ne sont pas mes idées. Hein. C'est l'apôtre Pierre qui le dit. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, et il l'a répandu, comme vous voyez, et l'entendez. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite. Alors là, c'est un autre psaume que Pierre cite, c'est quel psaume? Le psaume 110. Hein? Alors, vous pouvez retenir, en tout cas, ces deux psaumes, psaume 16 et le psaume 110. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Que toute la maison d'Israël sache avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Donc, il y a des allusions dans l'Ancien Testament, dans la loi, dans même les livres comme Job, dans les psaumes. Puis alors maintenant dans les prophètes. Dans les prophètes. Mais vous allez dire, mais il y a beaucoup de prophètes, hein. Combien est-ce qu'on appelle de grands prophètes? Il y en a combien? Qu'on appelle des grands prophètes, non pas parce qu'ils sont plus grands que les autres, mais ils sont plus longs. Il y a quatre, on appelle quatre grands prophètes. Ésaïe, qui a combien de chapitres? 66. Hein? Alors, dans les 66 chapitres d'Ésaïe, on pourrait trouver plusieurs allusions à la résurrection. Mais j'en citerai, il y a Ésaïe, il y a Jérémie, puis il y a Ézéchiel, puis il y a Daniel. Voilà les quatre grands prophètes, qu'on appelle les grands prophètes. Et c'est particulièrement dans Daniel, et c'est avec ça qu'on arrêtera aujourd'hui, ce matin, pour voir les allusions à la résurrection, c'est dans Daniel qu'on a la révélation la plus claire au sujet de la résurrection. Mais prenons Ésaïe 26, au sujet de la résurrection d'Israël. Ésaïe 26. Quel est le verset? Mais verset 19, hein? Que tes morts revivent. Où tes morts vivront, dit nos traductions. Que mes cadavres se relèvent. Réveillez-vous et tressaillez de joie, habitants de la poussière. Car sa rosée est la rosée de l'aurore, et la terre redonnera le jour aux ombres, où jettera dehors ses trépassés. Voilà un texte qui est aussi très clair. Verset 20, « Va, mon peuple, entre dans ta chambre, ferme la porte sur toi, cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. » Mais ceux qui sont morts revivront, et en particulier Israël. J'abrège, et nous arrivons maintenant spécialement dans Ézéchiel, qui a une vision. Dans quel chapitre ? Chapitre 37. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa au milieu d'une vallée remplie de quoi ? D'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, ils étaient complètement secs. Et il me dit, fils d'homme, ces os pourront-ils revivre ? Je répondis, Seigneur, tu le sais. Et il me dit, prophétise sur ces os et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel à ces os, voici je vais faire entrer en vous un esprit. Et vous vivrez, et je vous donnerai des nerfs, je vous ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit, et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. C'est une vision qui est donnée à Ézéchiel, et qui montre qu'il y aura une résurrection. Alors, on arrive au chapitre de Daniel. Daniel, chapitre 12. Et on s'arrêtera là pour les prophètes. Daniel, chapitre 12. En ce temps-là, verset 1er, célébra Michaël le grand chef, le défenseur des enfants de son peuple, et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Et verset 2, plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière, c'est qui ? Les morts, hein, dans la poussière de la terre, se réveilleront les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Il y a donc là, sous-entendu, combien de résurrections ? Deux. Une pour la vie et une pour la mort. Alors, nous allons voir dans les évangiles si vraiment on trouve ces deux résurrections. Est-ce qu'elles ont lieu en même temps ou à une époque différente ? C'est cela qu'il faut tout de suite souligner. On veut savoir, mais ça sera progressif, on aura d'autres lumières par le Nouveau Testament. Est-ce que cette résurrection pour la vie a lieu en même temps que la résurrection pour la honte et la mort éternelle. Bien, c'est clair qu'il y a deux résurrections. Déjà, dans l'Ancien Testament, vous voyez qu'il y a une résurrection qui est une bienheureuse espérance pour les croyants, mais il y a pour les morts aussi une résurrection, mais qui est pour le jugement. Alors, on va entendre ce que Jésus lui-même nous dit, et peut-être que je cite encore pour que vous ayez tout de suite la réponse de Jésus. Chapitre 5 de Jean, que nous allons considérer plus tard, mais pour les plus jeunes qui sont là, j'avais posé encore une question. dans l'Ancien Testament, est-ce qu'il y a des histoires de résurrection réelles? Combien? Qu'est-ce que vous dites? Deux ou trois? Trois. Trois. Alors, citez-les. Résurrection de deux enfants. Les enfants de qui? Premier livre des Rois, chapitre 17, verset 21, c'est le fils d'une veuve. Le fils de la veuve de Sarepta qui a nourri Élie. Et qui est l'instrument de la résurrection? C'est Élie, n'est-ce pas? Puis, dans le deuxième livre des Rois, un homme qui avait reçu la double mesure de l'esprit d'Élie, c'est Élisée. Lui aussi ressuscite un mort, le fils de la Tsunamite. Il a appris qu'elle aurait bien aimé un enfant, et bien, elle a eu cet enfant, mais voilà qu'il est mort. Et le Seigneur a conduit Élisée à ressusciter ce mort. Mais maintenant, quand Élisée lui-même est mort, qu'est-ce qui est arrivé? On l'a enterré, hein? Forcément, on l'a enterré. Et puis voilà que, à un moment donné, là, près du lieu où il était enterré, il y avait une bataille. Et puis, on était en train d'enterrer un mort. Puis, pour éviter d'être tué dans la bataille, on a laissé le mort, on l'a jeté dans le sépulcre d'Élisée. Et quand il est arrivé à toucher les os d'un mort, d'Élisée, qu'est-ce qu'il y a eu? Il est ressuscité. Donc, même les os d'un prophète comme Élisée ont redonné la vie, par la puissance de Dieu, à ce mort qui a été... C'est les trois résurrections que vous avez. Alors, là, vous pouvez lire 2 Rois, chapitre 13, versets 20 à 21, l'homme qui a touché les os d'Élisée. Donc, il y a trois résurrections dans l'Ancien Testament, mais des gens qui sont morts ensuite, de nouveau. Comme il y a combien de résurrections qui sont racontées au sujet du ministère du Seigneur? Il y en a trois. La fille de Jaïrus, qui a 12 ans, qui est dans sa chambre encore. Il y a le fils de la veuve de Nain, qu'on est en train de conduire où? Au cimetière. Et puis il y a Lazare, qui est déjà dans le tombeau. Les trois étaient réellement morts. Est-ce qu'il y en a qui étaient plus morts que d'autres? Quand on est mort, on est mort. N'est-ce pas? C'est seulement le degré de corruption qui était différent. La jeune fille qui venait de mourir, eh bien, elle était encore, pour ainsi dire, intacte, mais elle était morte. Si vous vous noyez à 10 mètres du rivage, est-ce que ça fait une différence de vous noyer à 100 mètres? Non, c'est la même chose. Hein. C'est la mort pareille. Hein. Bien, nous sommes tous morts dans nos fautes et dans nos péchés. Bon. Alors, nous en arrivons là. Maintenant, pour que vous puissiez vous pénétrer de tout cela, je vous laisse vous rendre dans vos chambres, et puis vous allez revoir un peu tout cela, méditer sur cela, et puis nous nous retrouvons. Vous faites une demi-heure de lecture. Et vous voyez, je me souviendrai toujours dans un milieu entièrement romain, alors que on m'avait demandé de leur apporter la parole, quand on lisait ce chapitre 4 de la première aux Thessaloniciens, chacun avait sa Bible, hein, il y avait peut-être 150 personnes, et ils venaient avec leur Bible. Hein. Et alors évidemment, je prenais une version catholique aussi pour qu'ils puissent bien comprendre. En effet, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, alors je m'arrêtais puis je me demandais, est-ce que vous croyez que Jésus est mort? Puis qu'est-ce qu'ils se disaient dans la foule? Oui, ils y croient. Hein? Il y a des crucifix partout. Non, Jésus est mort, donc ça on y croit, puis on le rappelle par le crucifix. Hein? Bon. Et alors, Est-ce que vous croyez que Jésus est ressuscité?
Oui.
Oui. Mais il disait oui aussi, c'est ça? Alors, croyez aussi. Et c'est ça qui est formidable, n'est-ce pas? Donc, il faut avoir la même foi, il faut ajouter, croyez aussi. Alors, c'est pas moi qui les convainquais, c'était la parole, mais ils n'avaient pas remarqué jusque-là. Oui? Non, mais ce qu'il y a, c'est que Jésus n'est plus sur la croix, n'est-ce pas? Parce que j'ai entendu, alors, des amis catholiques qui disaient, on est tanné de ce grand cadavre. Non, non, mais c'est ça. Il y a eu une réaction, n'est-ce pas, chez eux. Vous voyez, je sais pas, vous n'êtes pas venu dans mon bureau, là. Il y a quelque chose qui a disparu. Quoi? Est-ce que vous saviez ce qu'il y avait dans mon bureau? Qu'est-ce qu'il y avait? Mais les gens ne le remarquaient pas, mais il y avait une porte, là, c'était comme un buffet, hein, mais c'était sur la paroi. Mais quand on ouvrait la porte, il y avait deux parties, c'était le confessionnal. Tu aurais pu me mettre d'un côté, et puis le pêcheur de l'autre. Il y aurait eu deux pêcheurs. Mais voilà qu'en entrant hier, il n'y avait plus de confessionnal. Mais qu'est-ce qu'il y avait? Deux chaises. Mais à ciel ouvert. Voilà, donc vous voyez, il y a une certaine évolution. Mais on peut toujours, comme nous le faisions, je ne les ai pas entrés dans le confessionnal, quand quelqu'un voulait me poser vraiment une question ou m'ouvrir son cœur sur quelque chose qui les tourmentait, on était ensemble. Et bien maintenant, il y a deux chaises. Vous voyez, il ne faut jamais désespérer. Mais il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Hein. C'est ce qui arrive maintenant. On n'y croit plus à rien. Alors, il faut prendre ce qui est vrai. Il y avait des vérités dans le catholicisme. Alors, il faut construire avec ça. Eh bien, je vous remercie. Et maintenant, je pense que vous avez de l'appétit. Et que vous pourrez encore peut-être faire une promenade cet après-midi. Et on se retrouvera à 2 heures. Ça va?